France Inter.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un monde nouveau. Une émission qui consacre une heure ou presque chaque semaine aux petits et grands bouleversements de notre temps. Aujourd'hui, on se demande comment un jeu millénaire est redevenu le summum du cool pour toute une jeunesse. Après son ascension de l'Everest, le youtubeur Inoxtag, 23 ans, l'un des plus suivis de France, s'est lancé un nouveau défi, partager sa passion pour les échecs avec ses jeunes abonnés.
Les amis, quand j'étais au camp de base de l'Everest, j'ai appris à jouer aux échecs. J'avais un petit jeu d'échecs et un petit carnet pour apprendre des solutions et des problèmes. Et au final, j'ai kiffé le jeu. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un live où j'invite des streamers et on s'affronte aux échecs.
Lui qu'on avait découvert en pré-ado, enchaînant les parties de Fortnite, s'est mis pour la première fois cette année à organiser des grands tournois d'échecs diffusés en direct sur YouTube. On y retrouve des créateurs de contenu stars des réseaux et des joueurs d'échecs haut niveau. La seconde édition vient justement d'avoir lieu et elle a déjà été vue par près d'un million de personnes. Une audience massive, mais pas si surprenante. Depuis 2020, année du confinement et de la série phénomène Le Jeu de la Dame sur Netflix, de plus en plus de jeunes en France se passionnent pour les échecs.
E4.
Allez, D4.
Thomas avance sur l'échiquier en pion noir et tout de suite Jules, son adversaire de 15 ans, reconnaît
vraiment la classique
italienne.
Ce coup, il l'a vu plusieurs fois depuis 3 ans et sa découverte des échecs dans une série à succès.
La série Le Jeu de la Dame sur Netflix.
Extrait d'un reportage de Sophie Berada pour France Inter. Comment les échecs sont-ils devenus aussi populaires auprès des jeunes générations? Ira-t-on dans le futur proche applaudir des stars françaises de l'échiquier comme celle du ballon? Ce renouveau du jeu va-t-il enfin profiter aux dames? Spécial échecs ce soir, à les pions noirs en D5, que la partie commence. Bienvenue dans un monde nouveau.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Il est en train de se mettre mal au dos, Inox joue un coup.
Ah, il a plus 40 secondes.
40 secondes, c'est quoi ça? Il a ramené tour à 5.
Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises.
Ces deux protagonistes peuvent nous surprendre encore.
Pourquoi il réfléchit? Il peut manger le pion en C2, il faut absolument qu'il le mange.
Parce qu'il est stressé.
42 secondes chacun.
C'est là qu'il joue sa vie.
H4.
Oh,
la barque
H4.
Est toute noire. Tour C5.
Tour C5.
Tour C5.
Tour C5.
Tour C5.
Tour C5, après tu vas à la promotion.
Tour C5 ! Extrait d'une des parties qui opposait ce mercredi le youtubeur Inoxtag, 8,5 millions d'abonnés quand même, à une autre star de l'internet français, Maxime Biaggi. Bonsoir Julien Song.
Bonsoir.
Vous avez co-animé la soirée avec Inox en qualité de monsieur échec des réseaux. Vous êtes aussi son coach, je crois.
Ouais.
Vous avez 500 000 abonnés sur la chaîne YouTube, entre autres parce que vous êtes très présent sur les réseaux et vous faites pas mal de pédagogie autour du jeu. Par ailleurs, vous êtes un grand joueur, maître international à 20 ans, parmi les 200 meilleurs joueurs français. Ça représente quoi d'ailleurs, juste pour avoir une idée, maître international? Si on devait trouver une analogie, je ne sais pas, dans le foot ou...
Alors d'un point de vue statistique, c'est le top à peu près 0,5% des joueurs, quoi, on va dire.
Sans vouloir se la péter, quoi.
Ouais, je suis désolé.
Julien, on vous propose une petite partie à distance face à une créatrice de contenu et joueuse d'échecs qui a participé à ce fameux tournoi d'Inoxtag cette semaine. Alice Brunswick, vous êtes là?
Oui, bonjour.
Bonsoir Alice, on dit Alice Bruns sur les réseaux, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Vous êtes en duplex de Toulouse et sur Instagram, vous êtes suivi par plus de 100 000 abonnés. Ça fait un an seulement que vous jouez aux échecs et maintenant, c'est la première chose que vous faites le matin. J'ai lu ça dans un article.
Ouais, c'est un peu là où mon cerveau est le plus frais, où je fais pas trop de gaffe le matin.
Donc vous vous mettez sur chess.com et avec votre café.
Direct, je joue une partie et je fais quelques problèmes.
D'abord, un mot sur l'événement auquel vous avez participé cette semaine, ce tournoi d'échecs sur la chaîne YouTube d'Inoxtag. C'était un plateau incroyable avec des superstars auprès des jeunes comme le streamer Kameto ou encore Étoile, le tout suivi par des centaines de milliers de personnes en direct avec plus d'un million de vues maintenant aujourd'hui. Ça va continuer à monter à mon avis. La précédente avait fait plus de 2 millions, la précédente multipartie, le précédent tournoi. Et on a rarement vu un tel dispositif pour mettre en avant les échecs. Julien Song, moi j'ai l'impression qu'on a affaire à ce qu'on a vu avec les courses automobiles ou les combats de MMA.
Ouais, c'est clair. Alors, moi, ça fait 20 ans que je joue aux échecs et j'ai jamais vu ce que j'ai vécu il y a quelques jours. En gros, on était dans un studio avec un décor immersif. C'est plutôt les studios qui sont souvent utilisés pour tourner les grandes émissions de télé. Et nous, je vous avoue que les échecs, on a plutôt l'habitude des fois de jouer dans des gymnases. Alors là, pour le coup, j'étais totalement abasourdi, quoi.
Ça sentait meilleur.
Bah, c'était un décor immersif et je me suis cru dans une série Game of Thrones, quoi. Et il y avait les dragons qui allaient arriver, quoi.
Quel impact direct ont ces tournois organisés par Inox, Julien Song? Est-ce que vous constatez un rajeunissement de votre audience?
Ah oui, c'est clair. En même temps, c'est un jeu qui est intergénérationnel. Je suis aussi très présent sur Facebook. Souvent, on dit c'est le réseau des vieux. Mmh. Et là, par exemple, sur Facebook, mon audience numéro 1, elle a entre 30 et 40 ans. Mais c'est vrai que Inox, il y a eu un vrai effet et ça a beaucoup rajeuni aussi l'audience, particulièrement en TikTok notamment.
C'était en février 2025, le premier tournoi organisé par InoxTag, tournoi d'échecs. Alice, vous, comment vous êtes venue aux échecs? Est-ce que vous êtes venue par les réseaux?
Bah alors pas du tout, moi c'était un peu par hasard. Les échecs ça m'avait toujours attirée parce que bizarrement j'ai un peu une image des échecs comme un jeu élitiste, un jeu inaccessible et surtout pour moi parce que de base moi je suis quelqu'un de pas du tout logique, j'ai toujours été très très nulle en maths et en fait vu que j'ai lancé mes réseaux donc il y a un an maintenant, je me lance des défis qui me ressemble pas du tout. Et les échecs, c'était vraiment pile ça, quoi. C'était un truc, pour moi, hyper difficile.
C'était élitiste, c'était masculin aussi, pour vous?
Ouais, très, très masculin. Après, on a vu le jeu de la dame. C'est vrai que je pense que ça a inspiré même beaucoup de femmes à jouer aux échecs. Et c'est trop cool. Mais oui, il y a aussi ce côté-là. Moi, c'est un peu comme les jeux vidéo. J'ai toujours aimé les jeux vidéo. Et c'est vrai que ça a toujours été un truc très garçon. Et en fait, ça fait plaisir de se lancer là-dedans et de se dire, bah, moi aussi, en fait, je peux le faire, peut-être.
Alice, vous avez joué face au mentaliste Charlie Head. Vous aviez respectivement quel niveau, à peu près?
Moi, je suis à peu près 600, 700 LO.
LO, c'est le classement officiel de la Fédé, mais il y a aussi un classement de chess.com, je crois, qui est important.
Ouais, sur chess.com, ouais.
Et on va écouter un extrait de ce match, justement.
Elle n'a pas joué encore son coup.
Ouais. Il a mangé le pion et les lignes sont en train de s'ouvrir sur le roi d'Alice. Ça va être chaud pour Alice, là.
Attention, Alice, qu'est-ce qu'elle va jouer? Elle réfléchit sur son prochain coup.
Mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur, hein, tu vois.
Est-ce qu'elle va manger le pion ou pas?
Alice, débrief, qu'est-ce que vous auriez dû faire? Qu'est-ce que vous auriez voulu faire différemment?
Alors, je pense que j'aurais surtout pas dû perdre mon fou bêtement, mais bon, en fait j'étais quand même assez stressée, mais pour le coup je suis très contente de l'avoir fait, je suis très contente de ma partie, même si j'ai un peu gaffé, mais c'était très cool.
Julien Song, elle le disait, Alice, elle pensait que les échecs c'était élitiste, masculin, etc. Est-ce que les événements comme ça montre que c'est pas du tout que ça les échecs aujourd'hui, que c'est pas réservé aux geeks du jeu?
Alors, bah, il y a deux éléments. C'est-à-dire, le côté élitiste, je pense que c'est vrai. On a toujours cette image un petit peu élitiste et ça commence à changer, je pense. Par contre, le côté féminin, c'est vrai que le jeu reste encore beaucoup joué par des hommes. Moi, par exemple, sur les réseaux, peu importe le réseau, je suis suivi par 85% d'hommes.
Votre audience, elle est majoritairement masculine. Donc, ça va populariser, ça va être accessible à tous les niveaux, on va dire, toutes les catégories de la société. Mais les femmes, en revanche, elles ne regardent pas spécialement ces contenus.
Ouais. Moi, très souvent, par exemple, dans la rue, on m'arrête parce qu'on m'a reconnu, mais j'ai encore jamais été arrêté par une femme.
Ah, bon, bah,
j'ai été arrêté que par des hommes.
Avis aux amatrices. Alice Brun, c'était important pour vous aussi de vous lancer au jeu d'échecs pour montrer qu'on n'était pas obligé d'avoir un super niveau, alors qu'on a souvent le sentiment qu'avant d'y aller, il faut bien maîtriser.
Oui, c'est ça. En fait, moi, ce que je voulais garder des échecs, c'est le côté... c'est une langue universelle pour moi, en fait. On peut jouer avec n'importe qui, de n'importe quel âge, n'importe quel pays. Et c'est ça que je trouvais incroyable, en fait. Les échecs, au fond, ça réunit parce qu'on peut tous les comprendre et on peut tous jouer. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais prendre énormément de plaisir à jouer, même si je n'étais pas très forte aux échecs, quoi, en fait.
Il y a aussi chez vous l'idée de rendre l'activité, la pratique, le sport, la discipline des échecs, on peut enchaîner comme ça les synonymes, plus socialisantes, puisque vous faites des clubs où on va courir d'abord et ensuite on fait une partie d'échecs, ça s'appelle le Chess Running Club. Quoi ça consiste, ce Chess Running Club?
Avec les endorphines de la course, on pourrait être plus créatif à jouer aux échecs, et peut-être plus détendu aussi. Et donc, ça rentre dans l'idée de ce que j'ai envie de montrer avec les échecs, c'est qu'en fait, on peut jouer tout en étant détendu, moins le côté compétitif et difficile, quoi.
Et il y a aussi une rencontre qui va se faire à travers les échecs, et là, qui ne se fait pas sur chess.com, mais que vous avez quand vous discutez autour d'une partie d'échecs après avoir fait un peu de course.
Exactement, je trouve que c'est une façon intéressante, en fait, de rencontrer des gens, parce que même si on n'a plus rien à dire, au final, on doit quand même jouer une partie d'échecs, donc c'est pas mal.
Depuis 2022, les échecs sont considérés comme un sport en France. On se dépense, Julien Song?
Oui, on se dépense beaucoup. Par exemple, moi, une partie d'échecs de compétition officielle, ça peut durer jusqu'à 4-5 heures. Et si vous voulez, pour donner une analogie, c'est un petit peu la même sensation que quand on a fini un concours, par exemple le bac. Bah, on finit après 4-5 heures d'examen, bah, on a la même sensation après une partie d'échecs qui dure 4-5 heures.
Vous n'avez pas une évaluation en termes de perte de calories? Ça nous intéresserait éventuellement.
Alors, je ne suis pas sûr qu'il y a un gros impact. Par contre, la perte, on l'a sur l'échiquier des fois. Et c'est ça qui fait mal.
Alors, et vous parliez tout à l'heure de votre audience qui est majoritairement masculine sur vos différents réseaux, puisque vous êtes sur YouTube, vous êtes sur TikTok, vous êtes sur Instagram et vous êtes sur Facebook. Est-ce que dans votre club, là, pour le coup, en physique, puisqu'on en parlait, il y a des filles?
Alors, dans mon club, oui, il y a des filles, je pense à peu près 10%. Et ce qui est aussi intéressant, par contre, c'est le côté très intergénérationnel. Donc, quand les membres s'inscrivent, je leur demande leur âge. Et ça va vraiment de 7 à 77 ans.
Donc, il y a des filles de tous les âges, même s'il y en a moins que les garçons, on dirait ça, à peu près.
Oui, oui, c'est ça. Bah, dans mon club, par exemple, il y a une Annie qui a plus de 70 ans.
Alors, on constate, moi je l'ai vu en tout cas dans les chiffres, les différents articles sur ce renouveau des échecs, qu'il y a quand même une désertion des joueuses à partir de U14, c'est-à-dire les groupes de 14 ans, au moment du passage à l'adolescence. Est-ce qu'il y a une perception différente, Julien Sang, la joueuse?
Je pense que déjà pour la question de la pression, ça concerne tous les joueurs. Par exemple, moi je coach beaucoup d'élèves qui me disent « j'ose pas jouer contre des humains, parce que quand je perds un humain, c'est vraiment la honte, je le vis mal ». Et du coup, par exemple, ils vont sur chess.com, ils vont jouer des robots uniquement. Comme ça, s'ils perdent un robot, c'est moins grave. Donc il y a déjà cette question de comment je gère la pression et est-ce que j'accepte la défaite qui est dure. Et ensuite, pour les filles, je ne saurais pas dire, hein, parce que je ne suis pas à leur place.
Vous n'êtes pas à leur place. En tout cas, il y a une association qui s'occupe de ces sujets, échecs et mixtes, et qui révélait que lorsqu'on se projette dans une partie contre un homme, on a plus de chances de perdre que lorsqu'on on se projette face à une femme. En tout cas, c'est les expériences qu'elles ont faites. Merci beaucoup, Alice Brunswick, alias Alice Bruns, sur les réseaux. On vous souhaite de bonnes vacances en Occitanie. Peut-être un cassoulet, qui sait. Et de tournoi alors. Merci à vous. Julien Sang, vous restez avec nous, on continue de converser sur ce nouvel engouement générationnel pour les échecs qui est exponentiel depuis 2020 et qui prend encore une nouvelle envergure avec les tournois organisés sur YouTube, on en parlait, les tournois d'Inox Tag, et vous serez rejoint dans quelques instants par un autre créateur de contenu ainsi qu'un grand maître international. Vous n'êtes que maître international. Mais d'abord, le roi de la playlist, c'est Yam, et sur Inter.
Me prends pas la tête, je me casse d'ici, j'emporte ma verre. C'est elle ma reine. Nous deux c'est toxique pour la vie. Ça sera toi et moi dans l'arène. Entre le love et la haine. T'es comme toi, j'en fume à perte de vue. Mais est-ce que je finirai pas en perdre la vue? J'allume mes cordes, le chromisme. Je voudrais chanter toute ma vie. Yeah.
pète ma gueule, ça chou, 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 ma gueule, ça chou, 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 ma gueule, ça chou.
Yamé fait du Yamé, il a imposé son style depuis l'incroyable succès de son premier recueil de titres, Eloi, récompensé par la victoire de la musique de la révélation masculine l'année dernière, avant la sortie de son premier album, ça s'appelle Ebem, ce sera en juin, le voilà qui nous livre ce titre tourmenté, ça s'appelle Shoot, et ça donne envie de rocker sa tour en assis, non ?
France Inter, un monde nouveau, Mathilde Serrel.
Vous écoutez un monde nouveau consacré au jeu le plus cool du moment, les échecs. Toujours avec le youtubeur et maître international Julien Song, rejoint par vous, Théo Fulpin. Bonsoir.
Bonsoir.
Alias Gartin59 sur les réseaux, vous aussi. On vous a vu dans le tournoi d'Inoxtag cette semaine et on conseille à tout le monde de revoir votre partie mémorable. Et puis j'accueille monsieur le grand maître international et président de la Fédération Française d'Échecs, Éloi Relanche, bonsoir.
Bonsoir.
Éloi, justement, vous êtes un peu aussi monsieur chiffre pour nous ce soir, parce que la cure de jouvence des échecs, ce jeu inventé en Inde, je le rappelle, aux alentours de moins 60 avant Jésus-Christ, elle se mesure en chiffres. Il y a un boom phénoménal de la discipline. Il y a plus de 60% des licences dans des clubs d'échecs en 5 ans, des dizaines de millions de joueurs en ligne sur la grande plateforme d'échecs chess.com, et cette donnée très parlante. Dans les années 90, 80% des adhérents à un club étaient des adultes. Aujourd'hui, 80% des adhérents sont des jeunes. Et c'est fou ça, Éloi, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, les échecs, c'est un sport déjà intergénérationnel, comme l'a dit Julien tout à l'heure, mais qui attire principalement les enfants et les jeunes, parce que c'est enseigné à l'école, parce que les clubs d'échecs sont à l'école, et parce que les parents adorent l'activité du sport échec. Donc, dans les clubs, on retrouve naturellement beaucoup d'enfants qui sont emmenés par leurs parents pour toutes les vertus de la pratique des échecs, donc la mémorisation, planification, la bonne entente entre les élèves aussi, c'est vraiment un jeu de convivialité, c'est un jeu d'échange et de partage, c'est un langage universel, les enfants qui ne sont pas forcément à l'aise avec la langue, qui ne sont pas forcément à l'aise avec leur corps, peuvent communiquer, c'est extrêmement inclusif, donc les professeurs et les parents y voient énormément de qualité, et donc on se retrouve aux portes des clubs avec beaucoup beaucoup d'enfants et beaucoup
de jeunes. Donc le levier, c'est les profs et les parents.
C'est les profs et les parents, c'est eux les prescripteurs du sport échec pour les petits. Et évidemment, quand on voit les enfants jouer, on est convaincu qu'on a fait le bon choix quand on est un parent ou un professeur des écoles.
Il y avait les championnats de France des jeunes, justement, qui avaient lieu à Vichy. Ça s'est clôturé la semaine dernière. Il y avait catégorie moins de 8 ans et moins de 20 ans, c'est ça ?
Ça va de moins de 8 à moins de 20. Comme dans tous les grands sports, il y a 1800 participants. C'est la grande fête annuel pour la Fédération Française d'Échecs, il y a tous les entraîneurs, les parents, les familles, donc ça réunit plus de 4000 personnes sur une semaine, c'est un événement majeur. Et il y a quelque chose qui est toujours marquant, hein, que tout le monde remarque, c'est que quand la partie commence, qu'on dit les blancs jouent, les noirs appuient sur la pendule, il y a 1200 enfants dans la grande salle qui d'un coup se taisent avec un silence, et on n'entend plus que le cliquetis des pendules, et tout le monde est concentré à fond pour 2h, 3h, 4h de jeu.
Vous parliez donc du rôle de prescripteur des profs et des parents, mais il y a quand même un point de bascule qu'on situe tous en 2020, puisque si on regarde les chiffres, il est assez évident. Avec le confinement, il y a eu aussi une rupture des stocks à ce moment-là, des jeux d'échecs. La pratique, elle était répandue en dehors des clubs. On estime qu'un Français sur 10 joue régulièrement aux échecs, 1 sur 2 on connaît les règles de base. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On a redécouvert les échecs en 2020, Julien Song ?
Ouais, le jeu de la dame, le confinement, bien sûr. Parce qu'on
le jeu de la dame, on va en parler. Oui, cette série donc Netflix... Qui a été un phénomène planétaire d'ailleurs, pas qu'en France.
Ouais, c'est clair. Et ensuite le confinement qui a fait qu'on a été pas mal enfermés, hein, c'est un euphémisme. Et du coup forcément on s'est dirigé vers des jeux de plateau dont les échecs. Et puis surtout chess.com qui a rendu la pratique du jeu extrêmement simple sur une application mobile. Et du coup ça a rendu ça beaucoup plus facile à jouer que 10 ans auparavant par exemple.
Gartin 59, vous avez senti cette bascule à ce moment-là ? C'est devenu cool les échecs à partir de 2020 ?
Ouais, je pense que c'est devenu cool. Moi, je me rappelle que quand j'étais lorsque j'étais plus petit, c'était pas forcément quelque chose qui était bien vu d'être un joueur d'échecs, un petit peu comme un joueur de jeux vidéo dans l'e-sport, parce que j'ai aussi été joueur professionnel sur Clash Royale. Donc c'était deux milieux où c'était pas cool. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, c'est devenu quelque chose qui est de plus en plus accepté et qui est de plus en plus popularisé avec des événements comme par exemple le tournoi d'Inoxtag dont on a parlé précédemment.
Vous, qu'est-ce qui a fait que vous l'avez senti, que vous avez eu envie de jouer aux échecs, Gartin ?
Alors moi, c'est tout simplement mon père qui m'a mis aux échecs. Au départ, j'aimais pas forcément la pratique du jeu, et en réalité, il a trouvé une manière ludique, puisqu'à l'époque, il y avait des magazines qui étaient donnés, un petit peu Dragon Ball. Du coup, pour ceux qui connaissent pas Dragon Ball, c'est un manga et aussi un animé, et on composait un plateau à partir des personnages, des différents personnages.
Donc il y avait des personnages Dragon Ball en dame,
exactement,
en roi,
c'est ça.
C'était qui, Sangoku le roi?
Sangoku, il devait être le roi, ça devait être quelque chose comme ça, contre l'armée de Bou, je crois, pour ceux qui connaissent un petit peu.
Et les Vegeta le fou.
Vegeta, je sais plus non, du tout. J'ai pas assez de souvenirs.
Bon, ça démarre là, quoi.
Ça démarre là, et depuis, ça m'a pas. J'ai arrêté à un moment donné, mais ça m'a jamais. Ça a jamais arrêté de me prendre au trip. Et donc, au bout d'un moment, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux pour justement montrer cette passion. Parce que justement, je trouve qu'à l'époque, on avait une manière des échecs et de l'aborder qui était très scolaire. Et je me suis dit, ok, moi, il faut que j'arrive à me détacher de ça et montrer que aussi c'est un jeu, comme l'a dit précédemment le président de la fédération. Les enfants aiment bien jouer d'échecs aussi parce qu'il y a un côté ludique dans ce jeu-là. Et je pense qu'il faut être capable de le montrer et de le retranscrire en vidéo également.
Vous avez 22 ans et on va reparler de la création de contenu que vous faites, parce que c'est pas simplement du jeu d'échecs, vous avez aussi votre patte et vous intégrez beaucoup les codes des réseaux, Gartin. Mais d'abord, je voudrais qu'on ait le témoignage d'une personnalité qui voudrait partager avec nous sa passion des échecs et qui est en ligne. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Jonathan Lambert. Bonsoir, Jonathan Lambert.
Bonsoir, ouais.
Mais alors vous, on peut dire que vous êtes accro aux échecs?
Oui, je sais plus quel. Un de vos invités disait tout à l'heure à l'école, moi c'est un petit peu le même principe. J'ai appris à l'école, je devais avoir 8-9 ans, j'ai en fait véritablement appris les déplacements. Et ce qui est formidable avec ce jeu, c'est que dès lors qu'on connaît les déplacements, c'est pas grand chose. C'est un jeu qui vous accompagne toute votre vie. Donc c'est ça qui est génial. Et puis ce que je trouve surtout, c'est que chaque partie en fait est un scénario. C'est un nouveau film qui se joue à chaque fois, parce que vous pouvez jouer contre quelqu'un qui est même plus fort que vous, mais tout d'un coup vous allez prendre l'avantage. Il y a tout l'aspect psychologique, comme on le dit souvent, la meilleure défense c'est l'attaque. Il y a des choses ou des moments où vous êtes sûr de perdre et finalement vous gagnez. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une partie, moi le plus souvent je fais des parties de 10 minutes, mais j'ai l'impression de rentrer dans une nouvelle fiction, et je m'imagine mon adversaire. Et puis ce qui est formidable, on le disait aussi, c'est que depuis les réseaux, on peut jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit avec quelqu'un qui se trouve en Inde, en Allemagne, au Brésil, et ça veut dire que vous ne pouvez plus jamais perdre votre temps. Il y a toujours des moments de 5-10 minutes où on perd son temps parce qu'on est dans le bus, parce qu'on est chez le dentiste, qu'on attend le rendez-vous, et avec les échecs, c'est extraordinaire. Moi, depuis que je m'y suis remis, parce que je m'y suis remis sur le tard, oui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus un moment de perdu dans ma vie.
Il faut préciser que sur chess.com, on peut calibrer son temps de jeu en fonction du temps qu'on a de disponible. Mais
c'est
vous...
ça, on peut faire des parties en blitz, et puis on peut s'inventer des pseudos, on peut dialoguer avec les gens, et c'est vrai que c'est assez marrant. Ben, moi, je jouais avec Pebble Bubblegum d'Allemagne il y a une demi-heure. Bon, d'ailleurs, il m'a battu.
C'est quoi votre
c'est
pseudo?
Monsieur Lambert, j'ai réussi à trouver un truc très simple. Par contre, j'ai vraiment une gueule qui est une blague.
Et vous y êtes remis parce que c'était redevenu cool ou pas?
Non, moi c'était avant 2020. En fait, c'était un moment où j'étais pas très bien. Alors c'est drôle parce que peut-être que ça coïncide à ça. Et j'avais besoin de me mettre dans une discipline qui allait m'isoler un peu, m'emmener ailleurs. Je me suis dit, tiens, c'est drôle, les échecs qui jouaient, mais ça serait bien de le faire de façon un peu plus assidue, d'être dans un club. Alors j'ai cherché des écoles, des clubs. Et puis je suis tombé sur Vincent Riff qui est maître et qui je crois entraîne l'équipe de Suisse, les jeunes d'équipe de Suisse, et donc je suis tombé sur lui, et rien qu'au téléphone, parce qu'ils ont quand même une sensibilité très accrue, et par rapport à mon background, je dirais, il a su à peu près quel était mon niveau. Il m'a dit, écoutez, venez dans mon cours, mais il n'y a que des enfants, mais alors je vous dis tout de suite, ils risquent de vous battre.
Et vous êtes fait battre par les enfants d'abord?
Ah ben, je suis arrivé avec que des enfants de 10 ans, ils avaient tous des têtes d'enfants sages, comme dans le petit Nicolas, que des aignants avec les lunettes tout mignons. Ils m'ont serré la main, la partie elle a duré 3 minutes, ils m'ont tous plié. Donc c'est ça qui est génial, c'est que ça force à l'humilité.
C'est bien, ça vous a pas découragé. Merci infiniment pour ce témoignage. Merci. Jonathan Lambert, et à bientôt dans le 7-10. On continue avec des anciens enfants joueurs, peut-être comme vous, Julien Song, vous avez déjà battu des vieilles personnes comme ça Ouais. Vous qui avez été maître international à 20 ans.
Ah, je le suis toujours.
Vous le restez, pardon, ouais. Mais c'était important que ça se passe à 20 ans, parce que c'est assez rare. Vous êtes un jeune maître international.
Oui, il y en a qui arrivent grand maître international maintenant à 12 ans, c'est vous dire.
Ça met la pression.
Mais c'est vrai que ça reste pas mal, quoi, 20 ans maître international. Mais effectivement, moi, c'est un petit peu comme Monsieur Lambert, donc le fameux pseudo. J'ai appris les échecs à l'école. Et donc c'est aussi pour rebondir sur ce qu'a dit Éloi, le président de la fédération. J'ai appris en CE2 et c'est mon maître des écoles qui avait un atelier échec à la fin de l'école et c'est là où j'ai tout découvert. Et j'étais moi par contre c'est l'inverse de Monsieur Lambert, c'est-à-dire que je pensais que les échecs c'était joué uniquement par des vieux et du coup pendant 2 ans. J'ai jamais franchi les portes d'un club parce que je pensais qu'il y aurait que des vieux.
Vous pensiez que c'était un tournoi de bridge, quoi. Enfin, pardon pour le bridge, mais ça allait se passer comme ça derrière les portes du club.
Ouais, et en fait, du coup, à un moment, j'aimais trop les échecs, donc je suis allé dans un club et en fait, j'ai vu qu'il y avait que des jeunes.
Donc voilà, c'était vraiment un a priori. Ouais. Pour attirer de nouveaux jeunes, la question des modèles, des incarnations est centrale. Il faut des Inox Tag, il faut des Julien Song comme vous, il faut des Gartin 59, il faut des Kevin Bordy alias Blitzstream. Il y a les sœurs canadiennes Botez qui produisent des vidéos avec un ton décontracté, qui ont carrément fait venir Will Smith récemment. On a vu que les frères Pongiste, les champions Lebrun, montraient qu'ils jouaient aux échecs pour s'entraîner à garder leur sang-froid. On a vu le basketteur prodige Victor Wembanyama qui a été vu en train de jouer dans un parc. Mais on manque d'un champion encore absolu. Nous, en France, on n'a pas notre icône, Éloi Rolange. Ça ferait du bien au mouvement des échecs.
Alors, on a eu un champion du monde de Blitz en 2021, donc Maxime Vachier-Lagrave, qui emmène les équipes de France depuis très longtemps. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui contribue...
Il est où notre Mbappé, quoi ?
Alors, notre Mbappé, on en a plein chez les moins de 12 ans et moins de 10 ans et moins de 8 ans. On a une génération spontanée, on est probablement dans le meilleur ou le deuxième meilleur pays du monde à partir de moins de 12. Avec
c'était pas du tout le cas avant, c'était la Russie, les Américains, on n'était pas sur la carte. Non.
Les grandes nations d'échecs, c'est Russie, États-Unis, Chine et Inde. Mmh. Donc ça ne s'invente pas, c'est vraiment des enjeux géopolitiques qui ont guidé aussi les échecs dans ces grandes nations. C'est le sport national en Inde, juste derrière le cricket. Donc quand ils ouvrent des écoles en Inde, c'est par 50 000 écoles qui vont faire échecs à la prochaine rentrée. Donc c'est vraiment une organisation d'État. Parce qu'ils y voient un bénéfice pour la population, ils y voient un bénéfice aussi international sur le fait d'avoir des champions du monde et des champions d'échecs. Mais ce qui a développé...
Mais c'est... du coup, ça raconte quoi, cette percée des jeunes Français dans l'échiquier mondial?
Ça, c'est la structuration de la fédération, je pense, y est pour beaucoup. On a des très forts entraîneurs qui sont dispatchés maintenant sur toute la France. Il y a 1000 clubs en France, donc c'est extrêmement structuré. Il y a un accès au club qui est extrêmement simple. Et comme l'a dit Julien, et c'est extrêmement important, mais aujourd'hui, les créateurs de contenu, ils inspirent les jeunes... Et il y a un club à côté de chez eux. Donc c'est une mécanique qui est énorme. Les créateurs donnent des contenus intéressants, qui intriguent, qui fascinent. Ensuite, on va jouer sur une plateforme de jeu en ligne. Comme l'a dit Jonathan Lambert, on trouve un adversaire de notre niveau tout de suite. C'est instantané. Et donc on va pouvoir s'amuser et jouer. Et si on veut aller plus loin, il y a le club d'échecs qui va faire l'expérience sociale en plus, qui va faire l'échange, le partage et toutes les vertus qu'on va pouvoir avoir dans une pratique sportive.
Gartin, en fait, c'est ça la grande bascule. C'est la fusion du monde des créateurs de contenu avec le monde des échecs. C'est ça qui a hyper popularisé le jeu aujourd'hui.
Ouais, je pense que les créateurs de contenu, ça permet de rendre vraiment un aspect différent du jeu d'échecs. Ça permet de se rendre compte que c'est aussi, comme on l'a dit précédemment, un moment qui est convivial, que c'est des parties qu'on peut aussi jouer sur Internet. Il y a une forme d'accessibilité. Et puis derrière, on peut passer sur un jeu plateau parce que c'est quand même quelque chose de beaucoup plus sympathique d'être devant la personne. Il y a un aspect psychologique qu'on n'a pas forcément sur Internet. Il peut y avoir de la déstabilisation, comme par exemple l'a fait Dina lors du tournoi d'Inox Tag. Il y a plein de facteurs qui peuvent
Dina qui jouait face à vous.
Ouais, Dina.
Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit comment vous avez importé cette grammaire. Parce qu'il y a une grammaire des réseaux, il y a une langue. Vous avez fait une vidéo tous les deux, Gartin et Julien Sank, qui est assez marrante. En fait, vous vous affrontez, mais avec tout un tas d'épreuves parallèles, de petites mises en perturbation, pour le coup, pas en condition, comme se faire épiler l'avant-bras, vous avalez du piment. Ça fait penser à ce fameux format Hot One. qui a été repris par Kian Kojandi en France. Enfin, c'est ça, en fait, vous êtes mis à fusionner ce qui marchait sur YouTube et les parties d'échecs, Julien Song.
Bah, en fait, moi, ma stratégie, enfin, moi, mon but, c'est vraiment de aussi aider au développement des échecs. Donc, ma stratégie, moi, c'est de vulgariser le jeu d'échecs. Je peux pas faire une vidéo et direct vous dire, OK, on va analyser la variante du pion empoisonné dans la nage d'or, fait ensuite regarder la variante hongroise ou bien la variante, je sais pas, autrichienne, etc. C'est trop compliqué et les gens vont juste pas accrocher. Donc, en gros, on amène ça soit par du divertissement, soit on va parler peut-être d'une variante du jeu d'échecs, qui perd gagne, ou bien les échecs atomiques, enfin, passer par des petits raccourcis pour intriguer, rendre ça mystérieux, et peut-être que du coup les jeunes ils accrochent, et après on va introduire petit à petit, on va dire le jeu d'échecs plus classique, et puis le parcours décrit par Éloi.
Vous travaillez bien pour la Fédé en fait, hein, Julien.
Je pense que c'est gagnant-gagnant, je pense.
Ouais. Mais comment est-ce qu'on pourrait définir du coup, Gartin ? Moi j'ai l'impression qu'on pourrait parler aujourd'hui d'un divertissement sportif, d'un jeu humoristique pour les échecs.
Ouais, bah, je pense que les échecs avaient vraiment besoin de ça. C'est-à-dire que YouTube, ça commence un petit peu à casser toute une génération, ça commence à devenir quelque chose de très gros, et donc on avait besoin d'avoir des concepts comme Julien a pu le faire où on rend les échecs beaucoup plus divertissants, où certes il y a une partie, mais derrière on a d'autres aspects qui peuvent être aussi cool à regarder, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une pure analyse, parce que si on prend les échecs d'un point de vue purement analytique, on va perdre les gens qui forcément potentiellement débutent, si on passe pas par de la vulgarisation, peut-être qu'on n'aurait pas un tel boom.
Ouais, puis c'est une mutation aussi qui est en cours partout, on voit, il y a un divertissement sportif aussi qui se fait dans toutes les disciplines, c'est vraiment l'influence des plateformes et de ces codes, de ces récits-là. On a avec nous finalement l'un des pères de tous les créateurs de contenu sur les échecs, c'est vous, Éloi. Parce qu'en fait, vous, avant d'être patron de la Fédé, Éloi Relange, vous avez créé une web TV. Web TV en France en 1998 consacrée aux échecs. Ça s'appelait comment et racontez-nous.
Alors c'est Diagonal TV, donc
sexy.
C'était à l'époque des modems 48K là, donc c'était le bzz bzz bzz.
56K qui fait
exactement. Et donc c'était un petit souci parce qu'on avait des programmes de grande qualité, on allait faire des reportages dans les tournois, des interviews des grands champions de l'époque, on a fait le match Kasparov-Kramnik en direct, donc qui était à Londres, qui a duré 3 semaines, on commentait 6 heures par jour, donc c'était des grands programmes de très bonne facture, en tout cas pour l'époque assez novateur dans cette idée de programme thématique et hyper spécialisé, mais les gens le recevaient ou le captaient relativement peu par défaut technologique. Mais effectivement, c'était le concept de la chaîne hyper thématique, ça s'appelait Canal Web qui avait monté ce principe. Il y avait 130 émissions super thématiques, la première étant celle de Brigitte Lahaie et la deuxième celle des échecs.
Ah.
Et après, il y avait toutes les autres émissions.
Le sexe et les échecs, c'est
exactement.
La base.
Exactement.
En fait, vous avez donc vu aussi des nouveaux adhérents arriver. Est-ce qu'eux, ils communiquent sur ces youtubeurs ou ces créateurs de contenu, ils vous en parlent? Enfin voilà, quand vous avez des remontées de la Fédé, vous avez des témoignages de gens qui sont venus parler réseaux?
Bien entendu. Alors, effectivement, les créateurs de contenu, ils contribuent. C'est-à-dire qu'on le voit dans les clubs, on voit les gens arriver, notamment les 25-35 ans, qui sont une tranche relativement nouvelle pour les clubs d'échecs, puisque avant, il y avait plutôt des seniors. Ensuite, il y a eu principalement des enfants. Et maintenant, on retourne les 25-35 ans qui reviennent et qui, la plupart du temps, n'ont jamais vu un échiquier. C'est-à-dire qu'ils arrivent au club d'échecs, ils sont déjà très bons joueurs, ils ont vu plein de contenu, ils ont eu plein de cours, de leçons, ils sont
techniques. Ils n'ont pas touché un pion.
Ils ont joué 30 000 parties, mais ils n'ont pas touché un pion. Et donc, ils sont de temps en temps assez déstabilisés. Et donc, c'est un nouveau public qui est vachement bien parce que ça se complète. Il y a des ados, des enfants, il y a un peu toutes les générations qui sont maintenant présentes et représentées. Et tout le monde discute ensemble autour de la même passion. Et ça se complète très très bien pour l'ambiance générale d'un club d'échecs.
On en a parlé tout à l'heure. L'enjeu maintenant, c'est au-delà de la popularisation, du rajeunissement, c'est la féminisation. On va écouter une créatrice de contenu que j'aime beaucoup sur les échecs. Elle s'appelle Maë, tout simplement Maë.
Moi, je vais vous dire pourquoi les échecs, c'est le sport pour vous, parce que la pièce la plus importante dans ce jeu, c'est la dame. Quelqu'un peut s'asseoir en face de moi et me citer un sport où la dame est la pièce la plus importante? Il n'y en a pas. Tu mets un joueur d'échecs, tu lui enlèves sa dame au bout de 3 secondes, le mec se met à pleurer, il abandonne. Voilà, la dame, c'est la pièce maîtresse, elle est là, elle protège le roi. Le roi, sans nous, il est fini, il n'est rien, il a besoin de nous, on contrôle tout, on peut attaquer, on peut se sacrifier, seulement parce qu'on sait qu'on va gagner. On peut aller en diagonale, faire du moonwalk, bref, tout ce qu'on veut. Donc si t'es une meuf, n'hésite pas à te mettre aux échecs, parce que tu seras la girl boss que tu pensais être.
C'est c'est hyper efficace à Gartin. Justement, vous qui avez fait des vidéos Gartin 59 avec May, vous avez fait des crossovers, vous avez fait des vidéos l'un avec l'autre. Là, c'est l'argument imparable.
Ouais, bah c'est vrai que la dame, c'est forcément l'une des pièces les plus fortes du jeu. Donc, en un sens, oui, ça peut être, on peut le considérer comme un jeu féministe, mais aussi, on peut aussi le voir dans l'autre sens, parce que c'est le roi qu'on doit protéger avec toutes les autres pièces. Donc, je pense qu'on peut lui donner un sens comme un autre, et ça dépend juste du point de vue qu'on veut lui donner.
Vous l'avez vu débuter, Maë, et je crois que vous nous avez confié en préparant l'émission que c'était pas évident pour elle d'arriver dans le milieu des échecs, milieu masculin. Donc.
Ouais, bah, c'est, je parlerai pas nécessairement son nom, mais forcément, il y a des problématiques. Déjà, quand on est petit, des fois, il peut y avoir un petit peu une forme d'ego pour les adultes du fait de perdre face à un enfant. Et en plus, quand c'est une petite fille, elle m'avait dit que parfois, il est arrivé qu'il y ait des joueurs qui lui balancent les pièces au visage par rage et par frustration du fait d'avoir perdu des parties. Et c'est forcément des choses qui sont absolument anormales et qu'on ne doit pas voir dans des milieux échiquiens et dans n'importe quel milieu que ce soit. Et donc, forcément, c'est des vraies problématiques parce que je pense que puisque les échecs, c'est un jeu qu'on considère comme étant intelligent. Quand on joue, on a l'impression de mettre son intelligence en cause. Et je pense que puisque chez beaucoup de gens, il y a encore beaucoup de biais sexistes, lorsqu'on perd contre une fille, on se sent moins intelligent qu'une femme, ce qui est une réflexion complètement débile, mais qui est une réflexion qu'il y a encore aujourd'hui dans le monde contemporain dans lequel on vit en 2025. Et qui, j'espère, tendra à s'effacer.
À s'effacer dans le milieu échiquier. Hein. J'aime beaucoup cette formule. Éloi Rollange, c'est votre enjeu, vous, à la fédé, la féminisation.
Oui, c'est quelque chose d'extrêmement important auquel on est très sensible. On a 20% de joueuses, c'est le plafond de verre qu'on ne franchit pas. On met en avant les rôles modèles maintenant, ça c'est notre nouvelle stratégie. On cherche à avoir plus de femmes dirigeantes. Et le sujet...
Dirigeantes
de club, animatrices ou entraîneurs. Plus de femmes, tout simplement, puisque c'est un peu intimidant pour une jeune fille d'arriver dans un univers principalement masculin. Donc on a envie de dire moins il y a de filles, moins il y a de filles. Et c'est ça, c'est ce cercle vicieux qu'on essaie de casser en mettant en avant principalement les rôles modèles.
Aujourd'hui, on est à 20% à peu près dans les clubs.
Ça fait longtemps qu'on est à 20%.
Et voilà, ça fait longtemps.
On donne tout pour augmenter, mais c'est pas facile.
Alors, on va quand même se remémorer ensemble cette magnifique citation de Bobby Fischer, donc grand champion des échecs, vainqueur du match du siècle en 1972, qui avait mis fin à des décennies de domination soviétique. J'ai relu dans un article du média The Conversation ses déclarations concernant les femmes aux échecs. Je suppose que même en leur donnant de l'avance, je les battrais facilement. Elles sont de terribles joueuses d'échecs, je pense simplement qu'elles ne sont pas si intelligentes. Jamais une qui pourrait se mesurer à un homme dans l'histoire des échecs. Je ne pense pas que les femmes devraient s'immiscer dans les affaires intellectuelles. Vous savez ce que je veux dire. Elles devraient rester strictement à la maison. Voilà, il y a du boulot. Dans un instant, on reste ensemble avec vous, le patron de la Fédé, Éloi Rollange, et les créateurs de contenu Julien Song et Gartin 59. On va s'intéresser justement aux grands enjeux auxquels vont être confrontés les échecs dans les années à venir, juste après Fontaine D.C. sur Inter. It's the cards that brings you down, but it's amazing to be young. Sometimes I wake up and it's Les Dublinois de Fontaines D.C. sur France Inter avec ce titre voulu comme un hymne à l'espoir. Je cite Carlos O'Connell, le guitariste du groupe, qui voulait traduire leur volonté de combattre le cynisme qui peut facilement nous gagner face aux réalités du monde moderne. Ça donne It's Amazing to be Young sur France Inter. C'est vraiment formidable d'être jeune. Voilà exactement ce que ressentent les échecs.
Mathilde Serrel, Un monde nouveau sur France Inter.
Un monde nouveau, toujours, avec Éloi Rollange, grand maître international et patron de la Fédération Française d'Échecs, ainsi que Julien Song, maître international et créateur de contenu star sur les réseaux Gartin 59, TikToker, mais aussi sur d'autres réseaux, tous spécialistes des échecs, évidemment, pour parler de ce renouveau qui a une locomotive. Est-ce qu'on peut parler du numéro 1? Il s'appelle Magnus Carlsen et lui, il est parti pour tout changer, non, Julien Song?
Ouais, c'est clair, c'est le numéro un mondial depuis, je compte même plus les années, je crois peut-être 15 ans, champion du monde depuis très longtemps, et au bout d'un moment ça lassait, donc il a dit qu'il laissait le titre aux autres. Et aussi, il fait un peu ce qu'il veut, par exemple, on le dit qu'il faut venir en costume, lui il vient en jean, et même s'il faut être éliminé du tournoi, il vient quand même en jean.
Et donc il va provoquer la Fédé jusqu'à être sorti du tournoi parce qu'il est en jean.
Ouais, en fait,
voilà, je veux dire, la grande organisation mondiale des échecs l'a déjà mis à la porte.
Il a décidé de ne plus jouer les tournois organisés par la Fédération Internationale des Échecs. En fait, c'est une légende vivante. Il a marqué le jeu alors même qu'il est toujours en activité, ce qui est rare pour un sportif. Et du coup, c'est lui qui imprime ses règles et sa loi.
À la Fédération Française, donc pas internationale, vous le percevez comment, Éloi Rollange, Magnus Carlsen? Alors, il nous emmène où?
Je vais dire, en tant que spectateur, quand Magnus Carlsen joue un tournoi, on regarde. Quand il n'est pas là, on ne regarde pas. Donc en fait, c'est lui qui fait venir le public, en tout cas des joueurs classés internationaux, des joueurs de club. On veut voir jouer Magnus Carlsen, c'est ça le truc. Maintenant, il fait évoluer la discipline, et ça c'est beaucoup plus important, en tout cas beaucoup plus concret. Il fait la promotion du jeu qui s'appelle le Freestyle Chess. Anciennement ouais. Appelé Fischer Random, mais bon, vu ce que dit Fischer,
on va pas l'appeler Freestyle. Parce que ça avait été inventé par Fischer, on lui enlève la paternité, du coup, vu ce qu'il a dit sur les femmes.
Exactement, qui est une version un peu différente, où on va placer les pièces de départ dans un ordre aléatoire, donc il y a 960 positions possibles, et donc la préparation dans les ouvertures, c'est-à-dire la connaissance et la mémoire qu'on a pour retenir les coups de l'ordinateur, n'a plus cours. Donc ça veut dire que le meilleur joueur va être encore plus avantagé qu'avant, et que les parties vont être beaucoup plus captivantes dès le début. Donc c'est une variante qui est très intéressante, un peu compliquée à regarder, mais en tout cas Magnus Carlsen, il va dans ce sens-là, il pense que c'est ce qu'il faut faire pour le futur de notre sport.
Le freestyle chess, donc, au lieu de mobiliser toutes les connaissances qu'on a, l'historique en fait des ouvertures, on va tout de suite aller dans la création du jeu pour déstabiliser l'adversaire, c'est ça ?
Exactement, on va commencer à réfléchir au premier coup, ce qui est très déstabilisant, parce que d'habitude, nous, grands maîtres ou maîtres ou joueurs très habitués, pendant les 10, 15, 20 premiers coups, on est dans des schémas à peu près connus, on ne réfléchit pas trop.
On disait à l'italienne tout à l'heure, on
entendait. Exactement. Mais là, dans le freestyle chess, on voit les meilleurs joueurs du monde réfléchir au premier coup. Et c'est très important, parce qu'il va y avoir des gros écarts sur les stratégies à venir. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, mais
oui,
Magnus...
La Fédération Internationale, elle interdit aux joueurs qui veulent participer au freestyle chess de concourir aussi pour le tournoi d'échecs mondial classique, le championnat du monde classique.
Oui, je pense qu'il y a une sorte de bromance entre Magnus Carlsen et la Fédération Internationale, puisque la Fédération
Internationale... Un peu sadomaso, la bromance.
Certes, mais la Fédération Internationale détient les titres de champion du monde. Donc en fait, il faut travailler ensemble. Ils ont tous le même but, ils ont tous la même idée en tête, et pas les mêmes moyens. Mais ce qu'on veut tous, c'est des échecs spectaculaires, spectacles, et que tout le monde a envie de regarder. Ça,
comme
c'est
du MMA. Gartin 59, qu'est-ce que vous en pensez de cette évolution des échecs vers le freestyle check et tout le monde en jean, bien sûr?
Je pense que le freestyle chess, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour les joueurs qui s'y connaissent déjà bien au niveau échequien, mais je pense que c'est beaucoup plus difficile à suivre, peut-être pour les joueurs un petit peu plus casus, qui n'ont pas trop l'habitude de jouer. Moi-même, pour avoir déjà commenté une partie de freestyle chess, forcément, j'étais un petit peu perdu, n'ayant jamais joué au freestyle chess. C'est-à-dire que je dois réfléchir dès le début à la place des joueurs, c'est difficile de capter l'attention, je ne sais pas forcément toujours ce qui se passe, donc on perd un petit peu tous nos repères, mais ça nous permet d'avoir cette créativité. Mais je pense qu'il faudra encore un petit temps pour que les spectateurs puissent totalement appréhender
ça. Déjà qu'on pouvait se sentir un petit peu à la porte tant qu'on n'est pas un bon joueur d'échecs, alors devenir un bon joueur de freestyle chess et être à l'aise, d'accord. Un dernier mot peut-être sur l'enjeu physique des échecs avec l'explosion de chess.com justement. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à un moment où ça va se numériser et peut-être moins permettre aux gens de se rencontrer comme avant dans les échecs? Julien Sang.
Moi, je trouve que pour l'instant, ok, les gens jouent davantage en ligne, mais j'ai toujours trouvé que c'était une bonne passerelle pour aller vers le physique.
Mais ça se transforme, on sait que ça se transforme.
Oui, moi, je trouve que ça se transforme. Par exemple, moi, j'ai.
Vous en parliez,
en tout cas. Ouais, mes statistiques de vues sont importantes et en même temps, je vois que le nombre de licenciés à la Fédération française augmente et c'est un record historique pour l'instant. Et en même temps, après, on parle des écrans, mais il y a aussi beaucoup de bénéfices avec les échecs. Par exemple, on parlait de championnat de France jeune. Quand les matchs sont enclenchés, il y a un silence absolu, mais il n'y a aussi pas d'écran pour les enfants pendant 3-4 heures. Et ça, c'est pas mal de nos jours.
Éloi Relange, d'un mot sur le physique, le numérique dans l'enjeu des échecs de demain.
Oui, tout se joue sur cette passerelle. C'est-à-dire que la pratique des écrans responsables en tant que parent, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Quand ils jouent aux échecs, je suis assez content. Mais je ne suis jamais aussi content que quand ils sortent de la maison et qu'ils vont pratiquer dans un club, dans un bar, dans un café ou chez des amis. Mais c'est ça vraiment la vraie valeur du sport, c'est de sortir de la maison et d'aller échanger, faire du social et pratiquer sa passion.
Il y a un autre truc qui peut les emmener, c'est la musique. On va se séparer sur ce titre, ce tube, que dis-je, porté par la nouvelle star de la pop, Mickey. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Et puis on contre-attaque. Et shake, j'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Irrésistible, si après ça vous ne jouez pas aux échecs. Merci à tous les trois, merci infiniment d'avoir été avec nous. Julien Song, on vous suit sur les réseaux et notamment sur YouTube. Prochaine vidéo, vous nous la dévoilez en exclu.
Je viens de jouer Gotham Chess lors du live d'Inoxtag, qui est le premier youtubeur échec du monde avec plus de 6 millions d'abonnés. Et donc, j'ai fait le débrief du match.
Éloi Relange, président de la Fédération française d'échecs. On incite les jeunes filles à s'inscrire dans les clubs d'échecs et aux gens aussi. On les incite à jouer en physique. Donc, Théo Fulpin, on vous suit sur les réseaux. Votre pseudo, Gartin59. Prochaine vidéo, en exclu.
J'ai fait exactement comme Julien Song, c'est-à-dire que j'ai repris mon match du tournoi d'Inoxtag, donc contre Dina Belenkaya, et je vais l'appeler Je débrief pour mon match contre Dina Belenkaya.
Ah ouais, voilà, tout simplement. Voilà. Enfin, version Gartin, ça peut partir pas mal en live. Je remercie aussi Alice Bruns sur les réseaux d'avoir été avec nous tout à l'heure en duplex, ainsi que Jonathan Lambert pour son témoignage. Son spectacle Rodolphe toujours dispo sur MyCanal et il lance aussi un nouveau podcast avec Fred Testo. Tenez, goûtez, c'est délicieux, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Un grand merci à toute mon équipe qui a travaillé sur cette émission. Rédaction en chef, Redouane Tella, réalisation, Frédéric Milano, préparation, Marion Philippe. À la programmation musicale, c'est Jean-Baptiste Audibert. Et à la technique cette semaine, Guillaume Roux.